Dans un entretien récent pour la FATS, pour le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, vous estimez que Taïwan n'a jamais été autant menacée par la Chine. Alors pour ceux qui, en Europe, ne suivent pas forcément l'actualité dans la zone Indo-Pacifique, est-ce que vous pourriez décrire concrètement ces menaces?
D'abord, j'avais dit que Taïwan n'a jamais été aussi menacé par la Chine, mais il y avait d'abord ce que j'avais dit, c'est que Taïwan n'a jamais été aussi forte. Donc, je crois c'est aussi, je crois il faut faire comprendre à tout le monde, c'est parce que maintenant la Chine a une ambition mondiale. Ce qui fait que il essaye de menacer. D'essayer de prendre en contrôle Taïwan pour réaliser son ambition. Alors, c'est-à-dire que d'abord, Taïwan, maintenant, nous sommes très attractifs parce que nous avons cette capacité de disposer le savoir-faire des semi-conducteurs. Donc, en général, nous produisons 60 à 70% des semi-conducteurs en général. Pour les plus sophistiqués, c'est 95%. Et pour les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle, c'est 100% made in Taïwan. Donc, il suffit de regarder maintenant l'entreprise qui a le plus de valeur du monde, Nvidia, qui vient d'atteindre plus de 5 trillions de dollars américains. Ben, pour fabriquer le besoin. Pour l'intelligence artificielle d'NVIDIA, ils ont besoin à 100% les puces, les semi-conducteurs fabriqués à Taïwan. Donc, ce qui fait Taïwan est très attractif. De l'autre côté, parce que nous sommes aussi une société chinoise, enfin, je veux dire une société sinophone, nous représentons un modèle pour les sociétés sinophones pour dire qu'on peut très bien vivre dans la démocratie. On peut être très prospère. La croissance économique de Taïwan cette année est prévue, on va atteindre 5%. Donc pourquoi j'explique tout ça? C'est parce que, si vous voulez, en étant vice-ministre des Affaires étrangères, avec cette beauté de Taïwan, cette capacité de Taïwan, eh ben, ça attire bien sûr l'appétit de cette Chine qui veut dominer dans le monde. Donc, ce que la Chine essaye de faire, d'abord, c'est de nous envoyer tous les jours des avions de chasse pour faire des incursions dans l'espace aérien pour l'identification de la défense nationale. Alors, pourquoi la Chine essaie de faire ça? C'est bien sûr pour intimider Taïwan et pour que nous nous soumettons devant cette menace chinoise. Mais je crois la menace essentielle, c'est qu'il y a un narratif chinois. La Chine veut forcer ou veut faire comprendre ou veut menacer le monde à accepter que Taïwan faisant partie de la Chine communiste. C'est-à-dire, il essaie de dire à tout le monde, eh bien, Taïwan, en effet, c'est simplement une province chinoise. Donc, si vous voulez. Tout le monde qui essaye de soutenir Taïwan, de défendre Taïwan ou de travailler avec Taïwan est considéré comme une menace pour les intérêts nationaux de Taïwan. Non, il n'y a que la Chine qui a le droit de travailler avec Taïwan. Donc, c'est plutôt cette menace-là que la Chine est en train de tout faire, donc avec des moyens économiques, des moyens militaires, et des moyens pacifiques, des moyens politiques. Donc, sur le plan politique, je reviens un petit peu là-dessus, c'est de faire croire à tout le monde, il y a un narratif chinois que Taïwan faisant partie de la Chine. Si on ne fait pas ça, eh ben, il peut menacer tout pays, toute personne qui dit que Taïwan ne faisant pas partie de la Chine. Il y a des menaces militaires, il y a de la manipulation d'informations au sein de Taïwan, essayer de faire tomber le gouvernement, essayer de faire que le gouvernement pour que le pouvoir fonctionne d'une façon inefficace. C'est, si vous voulez, pour être le plus simple possible, c'est de tout faire pour isoler Taïwan, de décourager Taïwan pour continuer à exister en tant qu'une nation souveraine, et aussi essayer d'obtenir le soutien de la communauté internationale d'isoler Taïwan. Et si tout ça se réalise, Eh bien, un jour, la Chine veut faire tomber ce fruit mûr qui est Taïwan et de le conquérir afin de pouvoir dominer le monde avant 2049. Pourquoi 2049? Parce que c'est la centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine qui était en 1949.
Dans ce contexte-là, j'aimerais rappeler que récemment, également sur les réseaux sociaux, le compte officiel de l'ambassade de Chine aux États-Unis a publié des photos prises par un satellite chinois de Taïwan, de plusieurs villes, notamment
Oui.
de Taipei, en soulignant, en marquant que c'était Taipei en Chine. Et vous évoquiez vous-même le narratif chinois. Ça évoque ici en Europe, évidemment, le narratif russe. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Dans quelle mesure est-ce que, selon vous, le parallèle peut être fait entre l'Ukraine et Taïwan? Taïwan aide l'Ukraine, notamment, il faut le souligner, via des programmes communs avec la Tchéquie. Quelle aide peut apporter Taipei alors que l'île de Taïwan doit elle-même assurer, comme vous l'avez dit, sa défense devant cette menace chinoise?
Alors, pour nous, le point commun entre l'Ukraine et Taïwan, c'est que nous subissons tous les deux cette sorte de menace. Alors, l'Ukraine est déjà le cas de la part d'un grand voisin, d'un grand empire qui veut élargir son territoire avec des moyens militaires. La Chine a aussi cette ambition. Là, ça, c'est le point commun. Donc pour nous, nous soutenons l'Ukraine parce que nous ne pouvons pas laisser ce modèle des relations internationales s'imposer à nouveau. Je dis à nouveau parce que dans le passé, ce que c'était comme ça que ça fonctionnait les relations internationales avant le 19e siècle. Alors, les pays les plus forts, les plus puissants pouvaient élargir le territoire avec des moyens militaires, mais nous avons voulu l'abandonner après la Deuxième Guerre mondiale. Donc maintenant, il y a la Chine et la Russie qui veulent recréer ce modèle-là en disant ben, les relations internationales se basent uniquement sur la force et sur les puissances, sur la puissance. Donc, nous refusons l'installation de ce modèle et c'est pour cette raison-là que nous soutenons l'Ukraine avec nos moyens disponibles. Mais il faut dire aussi en même temps, l'Ukraine est très prudente. Parce que l'Ukraine craint que la Chine soutienne la Russie avec toutes ses forces. Donc, les contacts officiels entre l'Ukraine et Taïwan restent très limités. Donc, ce que Taïwan, maintenant, nous sommes en train de faire, c'est en travaillant avec des pays européens sur plutôt des aides humanitaires, sur la reconstruction de l'Ukraine. Donc, c'est plutôt sur des moyens de coopération de façon, si vous voulez, soft. Plutôt économique ou coopération pour les aides humanitaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, ce que nous pouvons faire pour l'Ukraine. De l'autre côté, Taïwan et l'Ukraine, on ne peut pas les comparer de la même façon, parce que l'Ukraine, c'est un État comme les autres, qui est reconnu généralement par la plupart des pays, des États internationaux, et ce n'est pas le cas de Taïwan. La reconnaissance officielle ou la reconnaissance diplômée de Taïwan reste très limitée. Maintenant, il n'y a que 12 pays du monde qui reconnaissent Taïwan. Donc, Taïwan doit dépendre d'une façon, ce que je veux dire, un peu objective, c'est-à-dire uniquement de nos forces. Où il va falloir pour Taïwan de trouver un intérêt commun avec la communauté internationale, de défendre la stabilité et le statu quo de la région. Alors, sur ce point-là, je pense que nous sommes un cas très différent de l'Ukraine, parce que vous voyez, l'Europe soutient l'Ukraine d'une façon très officielle. Il y a des aides militaires, il y a des aides économiques. C'est pas seulement l'Europe, les États-Unis. Il y a plein de monde qui soutiennent l'Ukraine de cette façon-là. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de construire cet intérêt international qui veut dire que l'intérêt n'est pas simplement taïwanais, mais également américain, japonais, européen, et donc que vous venez défendre vos intérêts dans la région. Sinon, on ne pourra défendre aucun traité de sécurité, aucun traité de défense avec les autres. Alors, cet intérêt commun, c'est d'abord, il y a une chose que vous connaissez très bien, c'est que je viens de vous expliquer l'industrie des semi-conducteurs, mais c'est aussi l'autre, les valeurs universelles qui fonctionnent très bien à Taïwan. C'est-à-dire, si vous perdez Taïwan, vous êtes en train de dire aux sociétés sinophones du monde, ben, vous ne pouvez que vivre avec un système autoritaire qui est le système de M. Xi Jinping, et vous êtes en train de créer un empire immense, et de toute façon, le conflit viendra, mais ce sera pour la génération prochaine. Vous voyez, parce que la Chine vont être tellement fiers, eh ben, le conflit sera inévitable. Si nous perdons Taïwan, moi je crois sincèrement que le prochain sera le Japon avec les îles Senkaku de façon japonaise. Pour nous, c'est des îles Tiaoyutai. Le prochain cible sera le Japon. Donc, notre façon qui est très différente de l'Ukraine, c'est pour vous dire, mais regardez, hein, ici, il y a la stabilité, il y a un statu quo, il y a aussi un modèle de démocratie. Là, je pense qu'on est nettement meilleur que l'Ukraine sur le fonctionnement de notre pays. Mais il va falloir le maintenir et aussi donner l'espoir au peuple qui souffre sous le système autoritaire. Il y a Taïwan qui continue à exister. Donc, je crois qu'il faut bien faire la différence des choses qui sont similaires entre Taïwan et l'Ukraine, mais aussi entre les choses qui ne sont pas pareilles entre Taïwan et l'Ukraine. Et pour terminer, il y a quand même, sur le plan géographique ou géostratégique, il y a le détroit de Taïwan qui sépare Taïwan et la Chine, qui est large à peu près 180 km². Donc, envahir Taïwan n'est pas non plus si simple qu'envahir l'Ukraine, qu'on peut aller à pied. Alors, venir envahir Taïwan, il va falloir traverser un détroit de Taïwan et qui est menacé tous les étés par un typhon. Vous venez d'expliquer qu'un typhon bientôt viendra à Taïwan, un typhon très violent. Et pendant l'hiver, il y a des vents très violents. Donc, traverser le détroit de Taïwan, ce n'est pas aussi simple qu'aller à pied, marcher sur l'Ukraine.
En ce qui concerne particulièrement la Tchéquie, Prague a multiplié les échanges avec Taipei ces dernières années, notamment à travers des visites de haut niveau et des partenariats économiques et académiques aussi. Que représente pour Taïwan, pour vous, le soutien actif apporté par Prague et qu'espérez-vous du prochain gouvernement qui est actuellement en formation ici à Prague?
Alors, Prague, la République tchèque, c'est un partenaire très important pour Taïwan en Europe. C'est un des rares pays européens qui permet d'avoir des échanges de haut niveau pour nos deux pays. Donc, nous chérissons très fort cette relation avec la République tchèque. Et je crois bien, c'est non simplement une relation qui a été construite dans le passé, qui est en cours, mais aussi pour l'avenir. Parce que, encore une fois, Taïwan détient quand même une technologie qui est très avancée. Vous savez, je vais dire très simple, la technologie que Taïwan dispose pour faire comprendre très rapidement à nos téléspectateurs, c'est-à-dire dans 1 cm², vous voyez, c'est 1 cm² de semi-conducteur, c'est très petit, hein, là-dedans, il y a 10 milliards de chips, 10 milliards. C'est ça qui fait fonctionner vos téléphones mobiles, vos ordinateurs, vos avions, vos voitures, aussi les équipements de santé. Et donc, nous avons aussi beaucoup d'entreprises électroniques qui sont implantées, qui sont installées en République tchèque. Et nous voulons continuer cette relation qui est essentielle pour notre avenir commun. Et donc, moi, je pense, d'abord, nous remercions ces relations que je viens de vous évoquer, mais que nous espérons bien sûr dans l'avenir avec le nouveau gouvernement tchèque. Vous pouvez voir l'importance de cette relation et aussi de bien travailler avec Taïwan pour bien soigner ou même améliorer cette relation qui a été très importante, qui continue à être importante et qui est quand même liée à notre avenir commun.
Alors, vous avez déjà fait plusieurs fois référence à l'industrie des semi-conducteurs depuis le début de cet entretien. Je voudrais y revenir quelques secondes encore parce que du côté tchèque, on avait espéré que la filiale européenne de TSMC, le leader taïwanais dans le domaine, serait peut-être installée sur le territoire tchèque. Finalement, c'est Dresde en Allemagne qui a été choisie. En quoi est-ce que la maîtrise de cette technologie représente pour Taïwan une montagne magique, comme vous la désignez vous-même? Est-ce que ce n'est pas aussi une motivation pour le régime de Xi Jinping d'en faire une prise de guerre?
Alors, d'abord, nous avons choisi l'Allemagne, Dresden, ce n'est pas très loin de la République tchèque, et c'est juste à côté. Et deuxième chose, ce n'est pas nous qui, c'est-à-dire ce n'est pas le gouvernement taïwanais qui avait décidé ça, c'est le marché européen qui l'avait décidé, parce que TSMC, ce n'est pas une entreprise nationale du gouvernement de Taïwan, c'est une entreprise internationale. Donc très souvent, c'est le marché qui décide. Et ça démontre bien aussi que nous avons maintenant une très bonne relation, que TSMC, ou si vous voulez, nous considérons que le marché européen, que les relations économiques, les relations scientifiques avec l'Europe occupent une place d'une importance extrême. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, justement, c'est cette importance extrême. Bien sûr, vous me posez la question dès le début, en quoi la Chine est en train de menacer? Ben, la Chine veut aussi disposer de cette technologie. Donc, la Chine veut être leader du monde, veut remplacer les États-Unis avant 2049. Eh bien, prendre, c'est-à-dire en possession de cette de ce fleuron de Taïwan, cette entreprise qui est vraiment le fleuron de Taïwan, ben aussi devient une importance extrême pour la Chine de pour remplir son ambition. Donc Taïwan aussi est victime de son succès parce que nous avons pu développer cette technologie de pointe. Bien sûr, ça attire l'attention des Chinois, mais pas simplement des Chinois. Vous le savez très bien, même les Américains ont proposé que TSMC délocalise 50% de sa capacité de production aux États-Unis. Quand j'étais ambassadeur de Taïwan en France, je recevais aussi très souvent plein de gens qui souhaitent que Taïwan aussi, notre TSMC, s'implante en France. Donc, pour nous, ce qui est le plus important, il faut que cette technologie reste aux mains des pays démocratiques, des pays libres, et que ce ne soit pas sous contrôle de la Chine autoritaire. Et encore une fois, je le répète, il faut que le monde libre soit conscient de cette importance, que le monde démocratique travaille avec Taïwan pour que cette technologie de pointe reste dans nos mains pour pouvoir contribuer aux relations durables et aussi au futur de l'humanité.
Vous l'avez dit, vous avez de l'expérience en diplomatie, vous avez été également ambassadeur. En tant que diplomate expérimenté, justement, comment est-ce que vous jaugez la diplomatie de l'administration Trump depuis le début de son deuxième mandat? Comment est-ce que la diplomatie taïwanaise a dû s'adapter ces derniers mois?
Alors, pour nous, il y a d'abord une chose qu'il faut bien le préciser. Dans la région, l'allié le plus important de Taïwan reste quand même les États-Unis. Parce qu'il y a la 7e flotte, parce que la flotte américaine jusqu'aujourd'hui domine encore l'océan Pacifique. Donc c'est essentiel pour nos sécurités. Alors pour nous, la stratégie de Taïwan, il faut dire un deuxième point, d'une façon un peu générale, le monde s'est un peu soumis à la Chine pour faire l'embargo de l'armement contre Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan, maintenant, ne peut acheter que de l'armement avancé venant des États-Unis. Il n'y a que les Américains qui osent nous vendre. Alors, il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous avons encore de l'armement venu de la France. C'est-à-dire qu'on avait acheté, par exemple, des Mirage 2000, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour nous, vous voyez, d'un côté, tout le monde nous dit ben, « Taïwan, il faut que vous défendez vous-même », mais de l'autre côté, on refuse de nous vendre de l'équipement militaire avancé. Alors, récemment, pour maintenir le statu quo, les États-Unis, pour ces 4 derniers mois, les Américains ont fait 15 exercices militaires presque une fois toutes les semaines avec des pays alliés. Et je crois que c'est aussi une démonstration de force pour montrer aux Chinois, à la Chine, qu'il y a un statu quo à défendre dans la région. Donc, en ayant dit l'importance du rôle des États-Unis joué dans la région, ce que Taïwan essaie de faire, c'est de continuer à construire cet intérêt national partagé avec les Américains pour que la stabilité et la démocratie de la région restent un intérêt primordial pour les Américains. Et vous êtes en train de voir aussi que les Américains aussi, parce que face à la montée en puissance de la Chine, ben aussi veut plus de pays qui soutient la stratégie américaine. Donc, ils ont donné le feu vert, je crois, il y a une semaine, aux Coréens pour leur permettre de construire des sous-marins nucléaires. Les Japonais ont aussi annoncé que dans un avenir proche, le budget de la défense japonaise vont essayer d'atteindre 2% de leur PNB. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années, c'est encore limité à 1%. Le budget de défense de Taïwan, l'année prochaine, vont aussi atteindre un tiers du budget national du gouvernement. Et donc, notre président Lai avait promis, dans un avenir proche, c'est-à-dire avant 2030, selon le standard de l'OTAN, le budget de défense de Taïwan vont aussi atteindre 5% de notre PNB. Donc, je crois qu'il y a un intérêt commun dans la région, partagé par les Américains, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, les Philippins, les Australiens, les Nouvelle-Zélandais ou les pays d'ASEAN, de bien défendre le statu quo de la région. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'administration Trump pour dire que cet intérêt commun entre Taïwan et les États-Unis reste une importance extrême et qu'il va falloir continuer à travailler là-dessus.
Comment est-ce que vous évaluez l'évolution du soutien international à votre pays, à Taïwan, face à cette pression croissante de la Chine?
Eh bien, je suis très, très heureux que vous êtes français, vous êtes en République tchèque, que le soutien, d'abord par les Européens, sont en train de se renforcer très positive. Par exemple, notre vice-président, Madame Madame Xiao, vient d'effectuer une visite à Bruxelles au sein du Parlement européen. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Elle a fait une visite éclair qui n'a même pas duré 24 heures en faisant un discours dans l'Union européenne, enfin dans le Parlement européen. Et je crois cette visite avait besoin de beaucoup de soutien de nos amis européens et ça a été fait. Donc moi je pense, si nous regardons tout ça, c'est-à-dire le soutien de Taïwan venant des pays démocratiques sont en train d'évoluer vers une façon très positive et moi je suis très content de cette évolution qui a été faite dans les 10 dernières années.
Est-ce positif ou négatif selon vous que la question de Taïwan n'ait apparemment pas été évoquée entre le président chinois et le président américain lorsqu'ils se sont rencontrés récemment?
Alors, je pense que c'est quand même positif. Hein. Que les Américains parlent avec la Chine, que leurs relations bilatérales, ce n'est pas besoin d'évoquer Taïwan là-dedans. Donc, je suis content qu'ils n'ont pas évoqué la question de Taïwan. Enfin, je veux dire, pour évoquer, Taïwan n'est pas une question. Hein. Moi, je dis, Taïwan, c'est la solution. C'est-à-dire que une société sinophone peut très bien vivre avec des moyens démocratiques et avec des valeurs universelles que nous partageons. Donc, je crois ça a été très fortement demandé par la Chine, mais avant de monter dans l'avion, le président américain Donald Trump avait dit « Taïwan is Taïwan ». Taïwan, c'est Taïwan, donc ce n'est pas la peine d'évoquer la question de… Enfin, je veux dire, évoquer Taïwan pour la Chine, c'est une question. Hein. Pour évoquer Taïwan dans les discussions bilatérales entre Taïwan, entre la Chine et les États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose.
Monsieur Wu, s'il y a du temps, j'avais une dernière question à vous poser. Les jeunes Taïwanais semblent partager entre la fierté de leur identité et l'inquiétude, évidemment, liée aux tensions dans la région. Comment est-ce que le gouvernement dont vous faites partie travaille à renforcer le sentiment de sécurité et l'avenir de la nouvelle génération?
Alors, je crois que notre gouvernement maintenant est très préoccupé pour construire une société résiliente. Donc, c'est-à-dire avec la Chine, il ne faut pas uniquement penser sur nos capacités de défense militaire. Parce que, si vous voulez, hein, trop souvent, on fait cette erreur d'analyse en comparant simplement les moyens militaires de Taïwan et la Chine. Et puis on dit que ben, les Chinois ont plus de 3 millions de soldats chinois et Taïwan n'en a que 200 000. Donc forcément, s'il y a une guerre qui arrive, c'est Taïwan qui va être le perdant. Mais les relations internationales ne se raisonnent pas de cette façon-là. Si vous voulez raisonner de cette façon-là, mais il n'y a que les Américains qui peuvent faire face aux Chinois. Donc je pense. C'est-à-dire l'identité nationale qui est en train de se l'identité nationale de Taïwan qui est en train de se construire et qui est essentiellement basée sur des valeurs démocratiques et la liberté, notre capacité, notre savoir-faire sur la technologie, notre liberté, notre démocratie, mais aussi nous sommes Taïwan maintenant, récemment, a eu aussi de très bons résultats, par exemple sur le sport, sur le baseball, sur le basketball. Tout ça sont des choses qui sont très, très taïwanais. Donc, je crois que c'est à peu près sur ce progrès de la société taïwanaise, toute cette fierté taïwanaise qui sont en train d'être la base de notre résilience à Taïwan. Et je crois que ça doit être ça, l'avenir de Taïwan, mais également, encore une fois, il faut bien voir le symbole ou les valeurs que Taïwan représente, notre succès sur la démocratie, même ce n'est pas 100% parfait, même comme chez vous, il y a beaucoup de problèmes, mais ce que nous, les efforts que nous faisons pour les valeurs. Pour l'économie, pour le savoir-faire, je crois que c'est quelque chose qui mérite plus de soutien de la communauté internationale avec la jeune génération taïwanaise, avec vous, avec la communauté internationale. Il y a des progrès, il y a des valeurs, il y a des libertés à défendre dans la région Indo-Pacifique.
Merci beaucoup, Monsieur Wu, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et très bonne journée à Taipei.
Et merci de s'intéresser à Taïwan. Encore une fois, j'aurais voulu dire, comme tout le monde, à la question de Taïwan, mais on dit souvent, problème de Taïwan, il n'y a pas de problème sur ce niveau-là. Taïwan, c'est la solution pour la démocratie dans la région. Et je crois que les efforts que nous sommes en train de faire, vraiment, je crois, méritent plus d'attention du monde entier. Et je vous remercie encore une fois.